France Culture, 6h-7h, les petits matins, tout de suite les titres de l'actualité, Clara Lecoq-Réal.
Bonjour à tous. Y aura-t-il un consensus sur le Brexit lors du sommet européen qui s'ouvre aujourd'hui à Bruxelles? Les négociations ont en tout cas duré toute la journée, hier encore. Et si à Bruxelles, certains responsables se montrent positifs pour les heures à venir, comme Emmanuel Macron qui croit en un accord, le Britannique Boris Johnson reste en revanche prudent. Un certain nombre de questions restent en suspens, dit-il, notamment sur la frontière irlandaise. Le Conseil de sécurité des Nations Unies s'inquiète de la situation humanitaire en Syrie, 6 jours après le début de l'offensive turque contre les Kurdes. Les Kurdes qui détiennent 10 000 djihadistes du groupe État islamique. À ce propos, Jean-Yves Le Drian est attendu ce matin à Bagdad. Le ministre des Affaires étrangères français doit rencontrer les autorités irakiennes. Il veut mettre en place un dispositif international pour pouvoir juger les combattants islamistes dans la région. Autre rencontre au sommet, le vice-président américain est en Turquie ce jeudi. Mike Pence, qui souhaite qu'Ankara stoppe son opération militaire. Il promet sans cela de nouvelles sanctions. Emmanuel Macron dénonce le raccourci fatal entre islam et lutte contre le terrorisme. Il appelle à être intraitable contre le communautarisme en France, sans pour autant stigmatiser nos concitoyens, dit-il. Il le disait lors d'une conférence de presse commune avec la chancelière allemande, c'était hier soir à Toulouse. Une façon de répondre à la polémique sur le port du voile pour les accompagnatrices scolaires, polémique qui divise la majorité. Nous y reviendrons dans le journal de 6h30. Alors que la mère de famille qui avait été prise à partie ce week-end à Dijon annonce qu'elle va porter plainte contre l'élu du Rassemblement National pour violence à caractère racial et incitation à la haine. L'élu lui avait publiquement demandé de retirer son voile. Dans le journal de 6h30, dans une demi-heure également, notez que nous irons aux États-Unis où la grève chez General Motors pourrait prendre fin après un mois de mobilisation. La direction et le syndicat unique des ouvriers de l'automobile ont trouvé un accord préliminaire. Notre correspondant nous l'expliquera.
Chaque soir sur France Culture à 22h15, matière à penser. Cette semaine en compagnie d'Antoine Garapon.
Dans un monde en pleine transformation, inquiet et violent, le droit est un repère. C'est une boussole qui nous oriente.
La guerre qui devient économique se fait désormais aussi par le droit. Extraterritorialité, 8 syllabes pour un principe juridique qui fait trembler les entreprises européennes et s'invite dans la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Le droit comme arme de guerre, matière à penser de lundi à vendredi à 22h15 et sur franceculture.fr.
France Culture présente le DVD Los Silencios de Béatrice Seigner. Nouria, 12 ans, Fabio, 9 ans et leur mère, fuyant un conflit armé, arrivent dans une petite île au milieu de l'Amazonie, aux frontières du Brésil, de la Colombie et du Pérou. Leur père a disparu.
Ils ont trouvé le corps.
Est-ce qu'ils l'ont mataron les paramilitaires?
Un jour, il réapparaît mystérieusement dans leur nouvelle maison. Ici, tout est normal, mais tout est magique.
Tu abuelita ya te ha contado sobre los fantasmas de acá de la isla.
Los Silencios, actuellement en DVD. Un partenariat France Culture.
Et à 6h03, comme tous les matins sur France Culture, c'est l'heure de retrouver Toufik Hakem.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour et bienvenue dans le réveil culturel. Le réveil culturel, c'est tôt le matin à la radio, quand vous voulez, en passant par l'écoute en ligne ou l'abonnement au podcast, disponible entre autres sur franceculture.fr. Corinne Amard à la coordination, Vincent Abouchard à la réalisation et ce matin à la prise de son, Bruno Mourlan. Et tous les jeudis, on parle de l'actualité musicale. Mon invité ce matin est Thomas Fersen. Thomas Fersen qui sort un nouvel album, le 11e de sa carrière. Auteur, compositeur, ce chanteur fabuliste a le don de produire des chansons sans âge, terriennes et aériennes en même temps, portées par des musiques mêlant le folk rustique à l'électro-acoustique. Les petites fables de Thomas Fersen sont des chansons douces, et on le sait, il faut toujours se méfier des chansons douces qui ne sont pas toujours très gaies. Mais il ne parle pas que de lui dans son album, qui a pour titre « C'est tout ce qui me reste ». Il parle bien sûr de lui, de ses souvenirs, mais il évoque aussi King Kong, en amoureux fragile, et c'est une des plus belles chansons dédiées au plus célèbre des gorilles romantiques.
Le réveil culturel.
Jeudi, musique.
C'était un géant au cœur tendre. Toutes les mères auraient rêvé d'avoir cette créature pour gendre, car il était très bien élevé. Il était le plus fort du monde, mais il n'était pas si féroce. La beauté d'une femme blonde, ça faisait pleurer le colosse. King Kong. De métier, il était gorille, mais il n'aimait pas la baston. Comme moi, il aimait les filles, seulement il leur fichait les jetons. Troublé par son système pileux, ému par ses énormes membres, malgré son petit côté fleur bleue, le singe n'entrait pas dans la chambre. Il avait un cœur d'artichaut, au fond ce n'était qu'un brave type, injustement mis au cachot. Tout le monde le voulait dans l'équipe. Il était le plus fort du monde, nous allions le voir au Grand Rex, mettre une raclée au T-Rex. Au sujet de la femme blonde, de métier il était gorille, mais il n'aimait pas la baston. Comme moi il aimait les filles, seulement il leur fichait les jetons. Il était le plus fort du monde, mais il devenait dépressif quand il voyait la femme blonde sortir de derrière un massif. C'était un grand singe au cœur tendre, qui était poli et courtois, ayant de l'amour à revendre. Mais lorsqu'il montait sur le toit, il ne voulait plus redescendre. Il jouait avec les petits avions. C'était pourtant simple à comprendre. Le singe jouait à l'affection. C'était un être très sensible. Il poussait l'éloignement, le dialogue était impossible. Au fond il cherchait sa maman, et c'est au sommet d'un gratte-ciel qu'il la retrouva finalement. Voyant qu'il était aimé d'elle, il put s'en aller tranquillement. Le métier il était gorille, mais il n'aimait pas la baston. Comme moi il aimait les filles, seulement il leur fichait les jetons.
C'est l'avant-dernière chanson de votre dernier album, Thomas Fersen, bonjour.
Bonjour.
Une chanson dédiée à King Kong.
Oui, je l'ai mise en avant-dernier, j'avais peur qu'elle effraie en première position.
Et pourtant, c'est une déclaration d'amour.
Oui, c'est un tendre, c'est le mythe du singe romantique, comme vous l'avez dit, qui, comme moi, aimait les filles. C'est pour ça qu'on va le voir au cinéma.
Mais pourquoi King Kong? Vous avez vu d'autres personnages marquants au cinéma, je suppose, Thomas
oui,
Fersen.
Bien sûr.
Mais pourquoi lui?
Parce que j'ai peut-être un faible pour les grands singes.
Et que personne n'avait eu l'idée de faire une chanson sur King Kong.
Ah
surtout.
Bon, c'est vrai, vous croyez?
Qui, dans la variété française, ouais, dans la scène de la pop française, comme on dit,
oui,
a rendu hommage à King Kong.
Oui, c'est vrai. Je suis sensible aux mythes aussi. Hein.
Et aux animaux.
Et aux animaux.
En tant que fabuliste.
Souvent, dans les mythes, il y a beaucoup d'animaux. Mm-hmm. Hein, ou alors des moitié hommes, moitié animaux, comme le Minotaure. Effectivement, et je sais pas pourquoi j'étais attiré, parce que je pensais à cette fantaisie du singe qui peut pas entrer dans la chambre parce qu'il est, il est énorme, quoi. Il est bien sûr, il est mignon, mais il est trop gros.
Et puis aussi, il s'agit d'amour et de sexe. Or, c'est un peu le thème central de cet album, Thomas Fersen. D'ailleurs, si vous êtes déguisé en lapin,
Oui, c'est un chaud lapin.
Oui, c'est un chaud lapin. C'est pour rappeler que vous avez été un chaud lapin.
Oh, supposément. ce qui est intéressant, c'est les zones d'ombre. Donc là, évidemment, il y a matière à raconter ou à faire croire. Alors, je m'amuse beaucoup avec ça depuis longtemps dans mes spectacles. Prétendant avoir des enfants partout où je me trouve et donc j'ai eu l'idée de faire des pseudo-mémoires d'un supposé chaud lapin et de ses frasques, de concevoir un spectacle autour de lui, le chanteur aussi, on parlait des mythes à l'instant, le chanteur a la réputation, justifie ou non, d'être un chaud lapin, donc j'ai accepté d'en porter la dépouille d'une dépouille géante, bien plus grande que moi d'ailleurs, comme la réputation en général, et qui traîne derrière moi, qui m'accable et que j'ai oublié de porter en punition pour la somme de mes péchés.
Depuis quelques années, Thomas Fersen, vous autoproduisez vos albums. Est-ce que ça part toujours d'une idée? Parce que là, cet album, le dernier, qui vient de sortir, c'est Tout ce qui me reste, et on expliquera le titre dans un instant. C'est un album qui tourne autour d'une idée, d'un spectacle. Est-ce que vous concevez maintenant les albums en partant de la scène?
Oui, d'abord, c'est l'essentiel de mon activité, c'est le spectacle vivant. Effectivement, je suis dans un film narratif maintenant de façon vraiment nette. Ça, c'est quelque chose qui est déterminé au fil de ma carrière, mais au cours de ma carrière. Et donc, j'ai besoin de construire une narration avec un thème, une introduction, une conclusion et des surprises, des blagues, des farces. C'est une farce. J'écris des farces.
Même si vous évoquez au détour d'une chanson, d'un couplet, des sujets plus graves, Thomas Fersen.
Ah ben bien sûr, ça glisse un petit peu, c'est savonneux. Et puis aussi, je suis attiré, comme je le dis dans ma longue chanson La Mare, par les choses un petit peu plus troubles. J'aime bien aussi quand mon personnage au début est sympathique, puis à un moment il l'est un petit peu moins.
Ouais.
J'aime bien
ce figure.
Oui, des fois, quand même, il dit des trucs un peu misogynes. Il n'est pas toujours.
Alors, diriez-vous que plus il devient ambigu, plus il vous ressemble, Thomas Fersen?
Je vais pas jusque là, mais j'aime bien qu'on proteste dans la salle.
mais ce long morceau qui dure un peu plus de 10 minutes, qui s'appelle La Mare, ce sont vos souvenirs personnels.
Oui, j'ai mélangé un peu mes fantasmes, d'ailleurs, comme je le fais dans mon quotidien, ma pensée. Faite de mon imagination et de la réalité, comme tout un chacun d'ailleurs. On n'est jamais dans le réel totalement. Et donc j'ai mélangé le souvenir en question, c'est-à-dire que ma mère avait toujours peur que je tombe dans la mare, c'est une de ses peurs, elle en avait beaucoup, et celle-ci était très présente parce qu'elle avait peur que je me noie et que je m'enfonce dans ce monde, dans cette vase inquiétante.
Mais effectivement, quand on écoute La Mare, on est dans votre enfance, il y a des souvenirs d'enfant, mais il y a aussi des traumatismes et des passages qui font peur.
Des traumatismes, des peurs qui étaient, à mon avis, tout à fait fécondes et qui ont mis mon imagination en marche et m'ont un jour donné des idées à raconter. Voilà, donc je rendrais plutôt hommage à mes peurs d'enfant. Plutôt, c'est pas des traumatismes pour moi. Je pense que celles sont très constructives, ces peurs. Et donc, j'ai été effectivement attiré pour revenir à cette mare par elle. J'avais toujours l'espoir d'y voir apparaître un serpent ou quelque chose, une bête ou enfin qui. Et non, rien.
L'enfance est très présente dans cet album, Thomas Fersen.
Oui, je suis pas nostalgique de l'enfance, mais
plusieurs morceaux. Oui. D'ailleurs, ça souffre.
L'adolescence, oui.
Ça source un morceau qui s'appelle Les Vieilles. Oui. Et c'est l'histoire d'un adolescent de 16 ans qui tombe amoureux d'une vieille de 18 ans, c'est ça?
Écoutez, je me suis caché derrière lui parce qu'en vérité, j'avais au départ eu cette idée pour quelqu'un de mon âge à qui j'ai dit ce compliment que j'aimais bien les vieilles. Et puis je me suis dit, bon, c'est peut-être, j'ai déplacé un peu le sujet dans la bouche d'un adolescent de 16 ans qui s'éprend d'une fille qui a de 2 ans de plus que lui. Et à cet âge-là, on considère que c'est beaucoup plus vieux. Et ce qui, évidemment, tu es. Et dérisoire, comme des références d'âge.
Quelle enfance Avez-vous eu Thomas Fersen?
Un peu frustré, mais je pense que c'est naturel. J'ai grandi dans le 20e arrondissement. Enfin, d'abord,
à Paris,
mes parents habitaient en banlieue à Sucy-en-Brie. Et l'âge de 6, quand j'ai eu, moi, 6 ans, ils sont venus s'installer dans le 20e. Et donc là, j'ai découvert les gros mots, parce que paradoxalement, en banlieue, on n'en disait pas.
Et, ça dépend des banlieues. Ouais.
Mais à l'époque. Et donc,
vous n'êtes pas si vieux que ça, Thomas.
Je suis né en 63. Ouais. Bon. Et donc voilà, donc j'ai découvert ça, les chansons paillardes, la rue, les figures, les personnages.
Il y avait des chansons paillardes, il y avait
la prostitution.
Ouais. Tout ça dans le 20e arrondissement.
Ah oui, oui. Ah oui, j'ai découvert ça. Un jour, un enfant est monté sur une table et a chanté une chanson qui m'a stupéfait. Enfin, c'était une révélation pour moi. Et il chantait un dimanche matin avec ma putain porte de la Villette. Je lui mets la main entre les deux seins, direction Quéquette. Bon, évidemment, en passant sur les cochonneries, mais un dimanche matin, le temps, avec ma putain qui porte de la Villette, le lieu. Donc déjà en trois phrases très courtes, on a construit un décor, on a mis un personnage et on a dit quand ça se passait. La rime, et alors toute la grammaire de la chanson paillarde, c'est-à-dire que la rime souvent riche, les ellipses, les élisions, mais choisies évidemment, les chutes, les rebondissements, enfin tout ça, le rythme, tout ça a percuté mon cerveau et j'ai découvert un goût pour la chanson en général à travers cette forme.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Extrait de votre album, Thomas Fersen.
C'est doux pour le matin.
C'est très doux pour le matin.
Oui. J'ai commencé mon métier dans ma chambre et par la fenêtre de cette chambre, quand elle s'ouvrait, j'avais quand même des sons qui venaient du monde entier. Il y avait en face de chez moi, rue des Couronnes, l'hôtel Méditerranée, qui s'asseyait sur un café du même nom. Et quand la porte de ce café s'ouvrait, la musique orientale entrait, sortait dans la rue et rentrait chez moi.
Et là, en l'occurrence, pour envie de ne rien faire, c'est plutôt la musique cajun qu'on...
Oui, oui, oui. Oui, oui, tout à fait. C'est, en fait, j'avais le goût de ce banjo. J'ai le goût d'abord de l'instrument à cordes et des instruments généraux qui pour moi sont de l'ordre du jouet. Ils sont fascinants comme des jouets. Ils ont ça. J'ai toujours eu ce plaisir enfantin avec la musique. Et donc c'est la raison pour laquelle ici on entend un banjo.
Puisqu'on parle de jouer, Thomas Fersen, vous avez commencé par la guitare plutôt?
Oui, oui. Alors c'est pour une raison simple. Je parlais à l'instant de l'objet, c'est que celui-là m'a fasciné parce que je ne le connaissais pas et je l'ai découvert quand mes parents m'ont inscrit au lycée Jacques Decour au métro Anvers, et donc Pigalle, hein, le quartier à la fois de l'amour et de la musique
et des magasins de guitare.
Et donc j'ai découvert dans les vitrines des objets que je n'avais jamais vus et qui étaient fascinants. Et j'ai eu l'audace de pousser la porte d'un magasin un jour et d'être alors subjugué par le parfum de framboise qui sortait des lampes d'ampli. C'était tout un monde qui s'est ouvert à moi. J'ai senti que là, il y avait des perspectives pour moi, qui j'allais pouvoir aller très très loin. Et donc, j'ai demandé à ma maman, qui était ma complice, si elle voulait bien m'acheter une guitare. Et elle a accepté. Elle savait pas très bien. Elle aurait dû sentir là que je glissais dans la mare.
Mais Thomas Fersen, ça a commencé par l'amour des instruments de musique, donc de la musique, où il y avait déjà en même temps l'amour des mots, de la poésie, d'écrire des chansons et de raconter des histoires.
J'étais très sensible au langage. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle j'étais sensible à la chanson paillarde, mais j'étais sensible au langage en général. Je jouais dans ma chambre la comédie, la porte fermée. Personne ne savait que je faisais ça. J'étais même incapable de nommer mon activité, mais je faisais ça. J'incarnais des personnages avant même de penser musique ou de penser même à écrire quoi que ce soit. Et puis, vers l'âge de 10 ans, je lisais. J'avais le goût de la lecture que j'ai perdu à l'adolescence, mais à cette époque-là, je lisais. Et puis après, ma sœur, vers l'âge, quand j'avais vers 9-10 ans, ma sœur, sous l'influence de son entourage, et Baba Cool, au lycée Jules Ferry, et puis de ses copains, a découvert le rock. Et donc, j'entendais ça à travers le mur de sa chambre, et j'allais lui prendre ses disques quand elle était en cours. Et ce larcin augmentait mon plaisir. Mes sœurs écoutaient aussi un peu de chansons françaises, mais très choisies. Et mon père écoutait de la musique classique, mais par contre, il chantait, sans qu'on sache ce que c'était d'ailleurs, des petits bouts de chansons traînaient pour illustrer son propos. Alors, il partait sur trois vers, comme ça, ou d'autres. On savait pas ce que c'était, mais... Et sinon, donc, j'entendais quand même de la chanson, et puis on regardait... Alors, on n'avait pas la télévision, mais vers l'âge de 8 ans, enfin quand j'ai eu vers 8, 9 ans, ma mère a transgressé l'interdit et est revenue avec un petit poste radio là, avec une antenne intérieure, etc., qui marchait très mal. Et on a commencé à regarder là un peu la télévision. Donc, mais au départ, je me souviens que mes copains d'école primaire se racontaient ce qu'ils avaient vu la veille, et moi j'entendais parler d'un monde merveilleux, mais que je ne connaissais pas, et que je réinventais bien entendu, parce que après avec les bribes que j'avais saisies, notamment des films de James Bond, des choses comme ça, c'était formidable.
Et le côté fable de vos chansons, c'est venu tout de suite ou c'est parce que vous étiez lecteur de fables?
Pas du tout. Je lisais pas de fables, mais par contre, j'aimais raconter les blagues. Comme disait ma sœur cadette, faire mon intéressant. Donc je m'emparais des blagues et je les racontais. La blague, la farce, la blague cochon, elle est construite, elle est structurée. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me suis inscrit dans un film narratif assez court, pour cette raison. J'ai toujours eu le goût de ça, au fond. C'était fondateur.
Et comment vous composez la musique, Thomas Fersen? Parce que là, vous utilisez le banjo, mais aussi un ukulélé, une sitar.
Alors après, depuis quelques années, je compose au piano exclusivement. Et puis après, je l'enregistre comme ça, piano-voix. Puis après, j'enlève le piano et je l'habille avec... j'entends, j'ai le goût, par exemple, si c'est une chanson un peu qui se passe dans les bois, j'entends plutôt des cordes, peut-être un corps. Vous voyez, c'est comme ça, il y a une espèce d'imagerie instrumentale qui est assez classique que j'utilise pour habiller mes chansons.
Vous les testez sur scène avant de les enregistrer, Thomas Fersen?
Parfois je les joue sur scène dans l'impatience qu'elles soient proposées ou d'en jouir.
La lune était si pleine que le coq a chanté, j'avais les jambes en l'air, car en réalité c'était bizarre dans ma voiture, ça me donne encore des frissons. Je trouvais que ça sentait la friture. Je trouvais que ça sentait le poisson. C'était les zombies du cimetière qui ne retrouvaient pas leur trompe. Assis sur ma banquette arrière, c'est ça qui sentait le mérou. Avec la tête comme une pomme cuite, pareil à des bébés furieux. Quand ils veulent le biberon tout de suite, ou quand c'est l'heure qu'ils aillent au pieu. Bref, ils valaient mieux que je me taille. Ils marchaient comme des automates, dégoulinant de sauce tomate, zappés comme des épouvantails. C'étaient les zombies du cimetière qui ne retrouvaient pas leur trou. J'ai couru sans regarder derrière, chez moi j'ai tiré le verrou.
Les zombies du cimetière. Thomas Fersen, c'est un autre extrait de votre dernier album, c'est Tout ce qui me reste, par exemple, pour les zombies du cimetière. Racontez-nous l'histoire de cette chanson.
Le type a toujours un peu peur de son ombre, mon personnage. Donc,
votre double.
Mon double, oui.
Votre vrai faux double ou votre faux vrai double?
Tout est faux chez moi, alors ça finit par être moi.
Bon, voilà.
C'est comme les dents. Finalement, ce sont les miennes. Pourtant, ce sont des prothèses, mais bon.
Donc, ça commence par ce personnage.
Par ce personnage qui a peur de son ombre, et il voit ses zombies, des zombies partout. Vous savez, les zombies, quand on a passé 3 heures devant la télé, au bout d'un moment, on ressemble un peu à un zombie, hein, des fois. Alors, pour lui, ils sortent du cimetière, ils arrivent pas à retrouver le trou dans lequel ils devraient rentrer, mais bon.
Donc, le texte avant la musique, là, par exemple, en l'occurrence?
Le texte avant la musique, oui, toujours. Mais en écrivant, j'ai déjà la rythmique, j'ai le rythme, puisque évidemment, ce sont des octosyllabes. Et donc, déjà, il y a quelque chose qui est déterminé dans le texte. La langue française est ainsi faite qu'elle est musicale. Donc, on l'entend, la musique, quand on la parle.
Le titre de votre album, c'est Tout ce qui me reste. On peut en parler, Thomas Fersen?
C'est Tout ce qui me reste, c'est une chanson... c'est l'histoire d'un type qui, bien qu'il soit toujours en train d'essayer d'emballer les filles, le moment venu, refuse d'enlever catégoriquement son slip parce que il se rend compte que c'est tout ce qui lui reste et qu'on lui a tout pris. Il a finalement pas grand-chose. C'est un type qui est tout le temps dans l'échec, mais toujours gonflé à bloc. Je me suis rendu compte de ça. Mon personnage a ceci de commun, à travers toutes les chansons que j'ai écrites, c'est qu'il est toujours gonflé à bloc, mais il rate.
Vous n'arrêtez pas de dire, Thomas Fersen, que vos chansons n'ont absolument rien à voir avec l'actualité, que l'actualité, vous la tenez à distance, et pourtant, quand on a fini d'écouter cet album, on se dit que c'est vraiment un album d'aujourd'hui,
porté
par les problématiques d'aujourd'hui.
Oui, c'est...
Qu'est-ce qu'être un homme aujourd'hui, par exemple?
Oui, c'est-à-dire que je ne veux pas parler directement des sujets, parce que, d'abord, j'en ai pas la compétence, en vérité. Je vais faire que répéter ce que j'ai entendu ou lu, et je suis quelqu'un de très superficiel. Et j'en suis conscient. Donc, je ne veux pas essayer de faire croire le contraire, par honnêteté. Mais je suis dans la farce, définitivement. Mais ça m'empêche pas d'être avoir un peu d'insolence, de désobéissance, et parfois un peu de perspicacité sur la vie d'aujourd'hui, les comportements. Vous voyez, par exemple, dans les vieilles, je dis à maman, la jeune génération, je la trouve tartignole. Vous voyez, ça m'amuse. Vous voyez, c'est un petit peu être piqué un petit peu parce que je sens bien qu'il y a un mouvement général vers la jeunesse qui, évidemment, consomme plus. Alors, elle est intéressante sur ce point, mais bien sûr sur d'autres. J'ai des enfants moi-même. Et ce que je veux dire, c'est que j'aime bien piquer un petit peu, là, à rebrousse-poil.
Parce que la voix, Thomas Fersen, vous l'avez travaillé, vous avez eu des cours de chant?
Oui, j'en ai eu parce qu'elle était, elle est cassée, ma voix. Alors, moi, j'étais pas chanteur. On m'a bombardé. Chanteur, je jouais de la guitare dans un groupe de punk rock et je faisais les chœurs derrière dans mon coin. Et puis un jour, on s'est rendu compte que c'était ce genre de voix qui convenait. Donc, on a chassé le chanteur et on m'a mis à la place. Ça me dérangeait pas qu'on me regarde, mais j'ai continué.
Le réveil culturel de Tofik Hakem est à retrouver sur franceculture.fr.
Thomas Fersen est en tournée en ce moment. Vous aimez être en tournée. Vous êtes souvent en tournée.
Oui, c'est une forme d'école buissonnière pour moi.
Et le disque, le dernier disque autoproduit par Thomas Fersen, c'est tout ce qui me reste. Eh ben, on a écouté trois extraits.
Oui, autoproduit, c'est aussi une forme d'école buissonnière pour moi.
Et le reste est tout aussi bon. Merci beaucoup d'être passé ce matin.
C'est très gentil de m'avoir reçu. Merci.
Vous êtes sur France Culture. Dans un instant, les informations de 6h30. À suivre, le journal des idées de Jacques Munier et les enjeux internationaux de Julie Gacon. France Culture, l'esprit d'ouverture.
James Ellroy est à Radio France, le lundi 18 novembre, en public, au Studio 104. À 20h, le maître du roman noir américain est l'invité de Laura Adler pour L'Heure Bleue. À 21h, Requiem for Danny, opéra radiophonique librement inspiré du roman The Big Nowhere, avec le big band de Jean-Louis Marchand et la participation exceptionnelle de James Ellroy. Réservation, maisondelaradio.fr. Requiem for Danny, un disque collection signature Radio France, en partenariat et en direct sur France Inter.
Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. Jean-Yves Le Drian est attendu ce jeudi en Irak. Il doit négocier un accord pour y juger les djihadistes arrêtés, alors qu'on ne sait toujours pas combien de combattants du groupe État islamique ont déjà échappé aux Kurdes ces derniers jours à cause de l'offensive turque. Nous y revenons dans un instant. La justice belge se penche aujourd'hui sur la dangerosité de Marc Dutroux. Ses avocats demandent une expertise psychiatrique en vue d'une demande de libération. Nous irons à Bruxelles. Et puis dans ce journal, nous reviendrons sur la prise de parole d'Emmanuel Macron hier soir sur le port du voile. Pas de communautarisme ni de stigmatisation, dit-il. Jean-Yves Le Drian est donc attendu en Irak pour une visite de 2 jours. Le ministre français des Affaires étrangères vient notamment discuter à Bagdad de la lutte contre les djihadistes en Irak et en Syrie. L'offensive turque en Syrie rebat les cartes car elle cible les Kurdes qui détiennent des milliers de combattants djihadistes. Et cela oblige la France et ses alliés à adopter une nouvelle approche pour lutter contre Daesh. Franck Madvon.
La France le martèle, l'offensive turque en Syrie est une formidable opportunité pour Daesh. Les Kurdes, qui ont déjà abandonné de nombreuses localités, pourraient relâcher les milliers de djihadistes qu'ils détiennent. Des cellules dormantes peuvent se réveiller. Un diplomate s'inquiète. Tous nos fondamentaux en Syrie depuis 5 ans sont remis en cause. Face à cette situation, la France appelle à une réunion de la coalition internationale contre Daesh. Et l'Irak a bien sûr joué un rôle clé dans ce combat. Son armée et les Peshmerga du Kurdistan irakien étaient en première ligne. Il faut maintenant une nouvelle stratégie pour affronter le groupe État islamique. Et c'est pour en parler que Jean-Yves Le Drian est à Bagdad. L'Irak a sans doute besoin d'aide. La réunion de la coalition internationale pourrait se tenir dans les jours qui viennent à Washington. Par ailleurs, à ce stade, les Kurdes contrôlent encore les prisons et les camps où sont détenus les combattants djihadistes. Il n'est pas trop tard pour discuter d'un cadre judiciaire pour ces prisonniers. Parmi eux, des dizaines de Français que Paris veut voir juger sur place.
Et pendant ce temps, aujourd'hui encore en Turquie, un autre responsable occidental est en visite, le vice-président américain Mike Pence. Il espère convaincre le président Recep Tayyip Erdogan d'arrêter son offensive en Syrie. La Maison-Blanche menaçait hier soir encore de nouvelles sanctions économiques contre la Turquie. Restons aux États-Unis où la grève chez General Motors pourrait prendre fin après 1 mois complet de mobilisation. C'est une première outre-Atlantique depuis 1970. General Motors et le syndicat unique des ouvriers de l'automobile ont annoncé hier avoir trouvé un accord préliminaire sans donner toutefois plus de détails. Le texte doit encore être approuvé par le Conseil national du syndicat aujourd'hui, puis il doit être soumis à près de 50 000 adhérents en grève, Loïc Loury.
Une trentaine d'usines à l'arrêt sur le sol américain et jusqu'à 100 millions de dollars de pertes quotidiennes selon les experts. General Motors se serait bien passé d'un tel mouvement social, d'autant plus que le groupe, sauvé en 2009 par Barack Obama, s'apprête à traverser une nouvelle tempête. Le secteur, véritable moteur de l'industrie nationale en effet, se prépare à des ventes en baisse après des records depuis 2014. Une industrie par ailleurs en pleine transformation avec l'arrivée notamment des voitures électriques et autonomes. autonome, évoluer ou mourir en somme et surtout préserver sa compétitivité. General Motors pourtant va devoir faire des concessions. Ses 48 000 ouvriers réclamaient des hausses de salaire, en particulier pour les travailleurs embauchés après le sauvetage de 2009. En début de négociation, le groupe proposait 7 milliards de dollars d'investissement, 5 400 emplois en plus et des primes de près de 8 000 dollars. Mais tout cela devra donc être validé par les grévistes et ce n'est pas une certitude. Le syndicat unique de l'automobile en effet souffre d'une grave crise de confiance en raison de l'inculpation pour corruption de plusieurs de ses dirigeants. General Motors n'est peut-être pas encore sorti de l'auberge.
Là aussi, rien n'est encore sûr. Il n'y a pas eu d'accord hier soir à Bruxelles à propos du Brexit entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Les négociateurs cherchaient à s'entendre avant le Conseil européen qui débute ce jeudi. Berlin et Paris affichent leur optimisme quand Londres, par la voix de son Premier ministre Boris Johnson, Londres veut rester prudent. Même si un accord est trouvé, le Parlement britannique doit encore l'adopter pour le valider. Hajar Raissouni est sorti de prison hier, un peu plus tôt, la Marocaine avait été graciée par le roi du Maroc après sa condamnation à un an de prison pour avortement illégal et sexe hors mariage. Elle devait être libérée en même temps que son fiancé et que le gynécologue condamné avec elle. Il est emprisonné depuis 23 ans. Marc Dutroux provoque à nouveau la polémique en Belgique car son avocat a demandé une expertise psychiatrique qui doit être examinée aujourd'hui par la justice. Pour les Belges, Marc Dutroux reste le tueur en série, l'assassin et non pas un justiciable comme les autres. Mais la justice doit tout de même examiner sa requête, Pierre Benazet.
Marc Dutroux s'était évadé quelques heures lors d'un transfèrement judiciaire et c'est désormais un des prisonniers les mieux gardés de Belgique. Le tribunal d'application des peines tiendra donc exceptionnellement son audience au sein même de sa prison à Nivelles, 35 km au sud de Bruxelles. Une audience à huis clos où les juges doivent examiner la demande des deux avocats de Marc Dutroux de nommer 5 experts psychiatres pour évaluer son état mental et donc le risque de récidive. Si cette expertise était accordée et si elle était favorable au tueur en série, ses avocats comptent l'utiliser pour demander une libération conditionnelle en 2021. Les 5 juges devront décider à l'unanimité d'accorder ou non cette expertise psychiatrique. Il est peu probable qu'ils prennent leur décision immédiatement à l'issue de l'audience. Une première demande de liberté conditionnelle a déjà été rejetée en 2014. La condamnation à perpétuité de Marc Dutroux est par ailleurs assortie d'une peine de mise à disposition du gouvernement. Et il paraît peu probable qu'un dirigeant politique prenne un jour le risque de renoncer à ce moyen de prolonger indéfiniment son incarcération.
Emmanuel Macron tente d'apaiser la polémique en France autour du voile. Le président de la République s'est exprimé hier soir à l'issue d'un conseil des ministres franco-allemand organisé à Toulouse en présence de la chancelière allemande Angela Merkel. L'actualité française hier soir a pour un moment pris le pas sur l'international, Stéphane Robert.
La mise au point du Premier ministre mardi après-midi devant les députés à l'Assemblée nationale n'avait pas permis de mettre fin à la cacophonie. Édouard Philippe avait indiqué qu'il n'était pas question de légiférer pour interdire le voile aux mères accompagnatrices lors de sorties scolaires. Qu'à cela ne tienne, la députée Aurore Berger avait aussitôt fait savoir que pour sa part, elle voterait une proposition de loi que la droite s'apprête à déposer sur le sujet. Dans la foulée, plusieurs députés marcheurs avaient alors exprimé leur désapprobation à travers un hashtag sur Twitter, en anglais dans le texte, « Not in my name », pas en mon nom. C'est donc Emmanuel Macron en personne, hier soir, qui a sifflé la fin de la récréation.
Faisons bloc et ne nous divisons pas pour lutter d'abord et avant tout contre la radicalisation dans notre société. Mais ne stigmatisons pas nos concitoyens. J'ai dit faire bloc. C'est ça la République.
Un peu plus tôt dans la soirée, l'Élysée avait rapporté des propos que le chef de l'État avait tenus, nous disait-on, dans un cadre privé. Propos à travers lesquels Emmanuel Macron mettait en garde contre les amalgames entre immigration et radicalisation et sur les risques de guerre civile que, selon lui, ça pouvait entraîner. En attendant, ce débat sur le port du voile lors des sorties scolaires réactive une forme de clivage entre l'aile gauche et l'aile droite de la majorité. Un clivage qui s'était déjà fait jour lors du vote de la loi Asile et Immigration au printemps 2018. Une quinzaine de députés de la majorité s'étaient abstenus pour exprimer leur désaccord.
Et j'ajoute sur ce sujet que la mère de famille voilée, prise à partie ce week-end par un député du Rassemblement National à Dijon lors d'un conseil régional, que cette mère de famille va porter plainte, 2 plaintes pour violences commises en réunion à caractère raciste ainsi que pour incitation à la haine. Les retraites dans l'actualité encore ce jeudi, alors que le Premier ministre Édouard Philippe sera dans le Jura pour en débattre. On apprend ce matin que le gouvernement envisagerait un plan B sur la réforme. Il pourrait ne l'appliquer qu'aux nouveaux entrants sur le marché du travail en 2025 et pas avant. Elle est seulement la 9e femme à entrer à l'Académie française depuis Marguerite Yourcenar en 1980. Barbara Cassin doit être officiellement intronisée aujourd'hui après avoir été élue en mai 2018. La philosophe, philologue et helléniste est aussi directrice de recherche au CNRS. Elle se plaît à faire évoluer les codes sans les casser toutefois. La traditionnelle épée qu'elle a choisie en entrant à l'Académie n'a d'ailleurs rien de traditionnel, elle s'en explique.
L'académie, c'est quelque chose qui a été fait par des hommes, dans un monde d'hommes, pour des hommes, avec une épée. Donc moi, par exemple, j'ai essayé de transformer cette épée, non pas pour tuer ou pour défendre, défendre la langue épée nue, mais plutôt pour inventer une épée non létale qui ne tue pas et qui ne puisse pas tuer, mais qui soit une épée, disons, de culture et d'inventivité qui mêle le plus ancien, puisque le pommeau de l'épée représente une statuette pré-hittite, c'est-à-dire un peu comme les statuettes pré-cycladiques, mais barbare, là, qui a été trouvée à l'emplacement où on cherchait Troie. Donc, une statuette très antique et en même temps la garde de l'épée est comme un écran souple, comme une montre connectée et elle peut contenir virtuellement tous les textes du monde. Et puis l'épée elle-même, elle est recouverte de cuir percé de trous et elle est en fibres optiques qui inscrivent en lumière, en couleur, un peu pour faire rire mes petits-enfants aussi, plus d'une langue, qui est la devise que j'ai choisie, une phrase de Derrida.
Plus d'une langue, la phrase de Jacques Derrida sur l'épée de Barbara Cassin qui entre donc officiellement aujourd'hui à l'Académie française. De la pluie sans discontinuer, sauf sur le sud-est aujourd'hui. Voici la météo prévue. Et pour les températures, il faut compter 14 degrés à Rennes, Lille et Paris, 15 à Strasbourg, Lyon et Bordeaux, 21 degrés ce matin à Marseille. Bonjour Jacques Meunier.
Bonjour Clara Lecoq-Réal, bonjour à toutes et à tous.
Et nous vous retrouvons aujourd'hui à 6h40, comme tous les matins pour le Journal des Idées, Jacques. Cela ne vous a pas échappé, c'est la 7e édition de la Nuit des Débats. Dès ce soir et partout dans Paris, des institutions, des associations, des librairies ou des lieux culturels seront ouverts aux échanges.
Oui, avec en guise d'ouverture dès 18h, donc la Nuit de la Démocratie, animée par Michael Fessel dans la salle du conseil de l'Hôtel de Ville. Le philosophe avait publié un beau livre sur la nuit où il évoquait notamment la qualité politique de la nuit, son potentiel de résistance dans l'histoire ouvrière, notamment illustré par les expériences nocturnes décrites dans La nuit des prolétaires de Jacques Rancière, celle des ouvriers et artisans parisiens qui, entre 1830 et 1870, brisent le temps salarial pour occuper leur nuit à se cultiver, à débattre ou à écrire. La nuit est propice aux expériences égalitaires. En 1833, rappelait Michael Fessel, les tailleurs parisiens en grève élisent un habitué des tavernes d'étudiants. En 1848, les ouvriers peintres s'adressent à un cafetier poète pour qu'il leur propose un plan d'association, tous des noctambules en somme, avant que les romantiques n'accordent à l'obscur le privilège justifié par une immense fatigue à l'égard du monde. Les penseurs des Lumières exprimaient déjà des doutes sur l'empire diurne. « Soyez ténébreux », suggérait Diderot dans son salon de 1767. « La clarté est bonne pour convaincre, mais elle ne vaut rien pour émouvoir. » Alain Cabantous publie à la Société d'ethnologie une conférence intitulée « Une histoire de la nuit est-elle possible ?» L'auteur d'une histoire de la nuit au XVIIe et XVIIIe siècle y répond évidemment par l'affirmative, mais au rebours de l'historiographie qui considère le jour comme le seul cadre temporel digne d'analyse. Pourtant, dans les brèches ouvertes des documents et des archives sur les usages de la nuit, apparaît une humanité en clair-obscur, les ruraux venus approvisionner la grande ville, les travailleurs de la nuit, boulangers, ouvriers du textile, de la verrerie ou de la métallurgie, et tous ces coureurs de nuit qui peuplent les archives judiciaires, dégradations en tout genre, troubles et tapages nocturnes forcés de constater que l'heure du crime ne mérite pas vraiment son nom, les vols et crimes de sang étant rares dans l'obscurité. La stigmatisation de la nuit servait davantage au pouvoir, qu'il soit politique ou religieux, en incitant les populations à ne pas se risquer au dehors, à exercer leur contrôle sur une partie du temps qui leur échappait. Et lorsque l'éclairage public s'est répandu, ce sont paradoxalement les réverbères qui ont fait les frais du vandalisme. Pour des raisons culturelles davantage que criminelles, la lumière nocturne étant ressentie par les habitants comme une ouverture de leur quartier à tous ceux qui n'en étaient pas. Alain Cabantous évoque dans le monde rural la tradition des veillées favorisant le mélange des générations et la transmission orale, et ces fêtes nocturnes comme le May Day ou la Saint-Jean dénoncées par les puritains, de 10 filles qui vont au bois cette nuit-là, il y en a 9 qui reviennent grosses. Aujourd'hui, allumer un réverbère, c'est éteindre une étoile. Dans un livre publié chez Premier Parallèle sous le titre « Sauver la nuit », le géographe Samuel Chaléa a mené l'enquête sur la pollution lumineuse qui fait que la Voie lactée n'est plus visible pour plus d'un tiers de l'humanité, 60% des Européens et près de 80% des Américains. Notre propre galaxie, vue de l'intérieur et par la tranche, trace laiteuse, diffuse et ténue qui traverse le ciel d'été du nord au sud, est en passe de devenir un souvenir nostalgique. En France, ce sont en tout 11 millions de lampadaires qui s'allument chaque soir, sans compter les 3,5 millions d'enseignes lumineuses qui scintillent dans les rues de nos villes. Toute cette lumière artificielle se répand jusque dans le ciel, où elle est diffusée par une multitude d'aérosols plus ou moins naturellement présents dans l'atmosphère. Un brouillard qui nous masque la vue du ciel étoilé et qui nuit à la biodiversité des espèces nocturnes, perturbe notre rythme biologique et les cycles du sommeil. Et tout le monde n'est pas Kafka pour transformer ses insomnies en énergie créatrice. Dans la dernière livraison de la revue de psychanalyse Savoirs et Cliniques, Antoine Verstraat passe au crible les insomnies et cauchemars de l'auteur du procès, soigneusement consigné dans son journal, qui affleure parfois dans son œuvre et d'emblée associé à l'écriture. Je cite « Je sens surtout vers le soir et encore plus le matin le souffle, la possibilité proche de grands états qui me déchirent et qui pourraient me rendre capable de tout. Et ensuite, dans le bruit général qui est en moi et que je n'ai pas le temps de commander, je ne trouve pas le repos. » Ailleurs, c'est la puissance de ses rêves qu'il tire du sommeil. Théodore Adorno, le philosophe qui a lui-même rassemblé ses rêves dans le Traum Protocol et écrit sur Kafka, relève que plus les rêves sont étroitement liés les uns aux autres ou se répètent, plus le danger est grand que nous ne puissions plus les distinguer de la réalité. Vous écoutez France Culture, il est 6h45. Bonjour Julie Gacon.
Bonjour Jacques Munier, bonjour à tous.
Et aujourd'hui, nous allons en Catalogne.
Oui, la condamnation des indépendantistes catalans rebat la carte des législatives espagnoles. Cette nuit encore à Barcelone, mais aussi à Tarragone et Lleida, des militants indépendantistes ont jeté des cocktails Molotov, dressé des barricades et les ont mis en feu. Dans la journée, une marche pacifique avait rassemblé des milliers de personnes. Ces manifestations durent depuis lundi, depuis que 7 anciens responsables du gouvernement et du Parlement catalan et 2 responsables d'associations indépendantistes ont été condamnés de 9 à 13 ans de prison. Ils étaient jugés pour rébellion, sédition, détournement de fonds et abus de pouvoir pour avoir organisé le 1er octobre 2017, on s'en souvient, un référendum d'autodétermination que la justice avait interdit et pour avoir proclamé le 27 du même mois une déclaration d'indépendance votée par le Parlement catalan. Alors on avait il y a quelques temps dans les enjeux internationaux évoqué l'issue alors imminente de ce procès comme décisive pour les législatives espagnoles du 10 novembre prochain, dans moins d'un mois. Bonjour Nassima Baron.
Bonjour.
Vous êtes géographe enseignante à Paris-Est Marne-la-Vallée. Je vous remercie d'être avec nous ce matin pour revenir un instant sur ce verdict de la Cour suprême. Sur 12 indépendantistes catalans jugés, 9 ont été condamnés pour sédition. La rébellion n'a finalement pas été retenue. Qu'est-ce que ça change ?
Alors c'est vrai qu'aujourd'hui les journaux espagnols commente sur des pages entières la différence, la nuance extrêmement importante, effectivement, puisque ce sont des à la fois des faits graves, mais l'interprétation de ces faits, l'interprétation juridique cause donc évidemment des perturbations de l'ordre public, et il faut bien s'entendre sur la compréhension de ce que le juge Manuel Marchena a voulu expliciter. Il a rendu un jugement d'une sentence de 493 pages. Et il a souhaité exprimer le fait qu'il n'y avait pas eu de la part de ses accusés de rébellion, c'est-à-dire de violence structurelle et planifiée par les accusés, mais qu'il y avait plutôt eu une sédition, c'est-à-dire, je cite, un soulèvement tumultueux et insurrectionnel ayant effectivement produit une altération de l'ordre public. Et là, on cite évidemment les journées de l'automne 2017, septembre et d'octobre, qui ont été organisées autour de ce référendum d'autodétermination et puis de la proclamation de la République fin octobre 2017. Et la lecture que fait donc le tribunal de Madrid, c'est que, dans le fond, les autorités catalanes n'auraient pas tout à fait voulu immédiatement l'indépendance, mais ont exercé une sorte de supercherie, de duperie, le mot en espagnol est engaño, prétendant, à travers l'utilisation de cette rhétorique, forcer à une négociation avec l'État. Et donc la violence ne visait pas directement la sécession, mais une pression politique.
Alors Nassima Baron, l'ancien vice-président du gouvernement Oriol Junqueras a été condamné à 13 ans de prison. Il y a aussi l'ancienne ministre du Travail, l'ancien ministre des Affaires internationales, l'ex-conseiller à la présidence qui écope de 12 ans. Le verdict a provoqué des manifestations houleuses, principalement à Barcelone, mais des manifestations qui continuent dans toute la Catalogne et qui doivent converger demain avec un tout nouvel acteur, c'est Tsunami Démocratique. C'est un mouvement clandestin anonyme qui est né en début de semaine, hein, immédiatement après le verdict de la Cour suprême espagnole. Qui représente-t-il Tsunami Démocratique aujourd'hui?
Alors, c'est un collectif qui a, on ne sait pas exactement, mais autour de 275 000 suiveurs, on dit des followers, et qui fonctionne sur Instagram. Il est né le 2 septembre à 9h12 sur Twitter, avec un appel, au départ anonyme, qui, je cite, hein, indiquait le nous, donc le nous du côté catalan et sécessionniste, nous reprenons la bataille dans la non-violence et la désobéissance civile, nous anticipons la sentence donc de ce verdict et appelons donc à un soulèvement, mais à un soulèvement populaire dans cette désobéissance civile. C'est donc c'est une application et en même temps une liste, hein, tout simplement, très simple, technologiquement très simple, qui aurait été lancée à partir d'une réunion qui a eu lieu donc à Genève, tout début septembre, autour des dirigeants sécessionnistes catalans en exil. Vous savez que Anna Gabriel, l'une des fugueuses et donc de la CUP, donc de la gauche radicale, est réfugiée à Genève. Elle était entourée de Carles Puigdemont, qui lui est, enfin, j'allais dire qu'il est sédentaire à Waterloo en Belgique, mais qui s'était rapproché de Genève, ainsi que de Quim Torra, l'actuel président donc de la Generalitat catalane, et d'un certain nombre d'autres dirigeants indépendantistes qui ont souhaité donc maintenant faire porter finalement la réponse politique par la rue. Ce n'est pas le seul mouvement collectif. Vous savez que les Diadas, les journées de la Catalogne en Espagne, en Catalogne, en septembre, tous les ans, rassemblaient des populations très importantes dans la rue. Mais c'était donc d'autres collectifs qui avaient une présence institutionnelle, visible, avec des dirigeants connus qui ont donc été aussi condamnés par cette sentence. On les appelle les deux Jordi. Ici, ce qui est différent avec cette application, oui, c'est que les personnes qui tirent les fils ne sont donc pas visibles et pas nommées. Et ce sont donc des centaines de milliers aujourd'hui de Catalans indépendantistes qui se préparent à remplir les rues demain dans une très grande manifestation, avec peut-être des troubles, peut-être des frictions avec la police. En tout cas, cette nuit, il y a eu
des affrontements,
des perturbations assez importantes dans la rue.
Oui, Nassima Baron, on est à un mois des élections législatives, les quatrièmes en quatre ans, puisque le premier ministre socialiste Pedro Sanchez n'a pas réussi à former une majorité parlementaire après des mois de tractations. En quoi ce verdict de la Cour suprême et les manifestations qu'il a provoquées et qui le provoqueront encore demain, vous le disiez, vont obliger les uns et les autres à se repositionner en vue des élections, à commencer par les élus catalans qui sont aujourd'hui invités à travailler entre eux au Parlement régional, notamment à une réforme du statut d'autonomie tout en restant dans le cadre de la Constitution. Est-ce qu'ils peuvent travailler ensemble ou est-ce que les dissensions aujourd'hui sont trop fortes et notamment à l'aune de ce verdict?
Donc, Quim Torra, le président catalan, a appelé à une session extraordinaire du Parlement, il en a la capacité juridique, dans la mesure où le mouvement catalan globalement porte le message que ce verdict, ce n'est pas de la justice, que l'État a cherché une vengeance, que cette action est donc injuste et antidémocratique. Bien évidemment, les partisans du catalanisme demandent amnistie pour les condamnés, ou au moins fort aménagement de peine, régime de semi-liberté le plus rapidement possible, et puis évidemment poursuivent leur lutte politique pour l'autodétermination. Ils disent qu'avec ce verdict, ils ont encore plus de motifs d'être indépendantistes. Cependant, l'application Tsunami démocratique en est l'image, ils sont extrêmement fragmentés, et donc cette application a pour objectif de relancer le combat politique d'une autre manière par d'autres acteurs, la rue, dans la mesure où la faiblesse et la fragmentation et les dissensions internes dans les rangs sécessionnistes n'ont cessé de s'accuser, entre, par exemple, la gauche républicaine, représentée par l'un des condamnés, Oriol Junqueras, et puis les mouvements qui étaient soit de gauche, soit de centre-droit.
Alors, Nassima Baron, est-ce que je peux vous demander de rester un tout petit peu éloignée de votre téléphone, parce qu'on entend votre téléphone bouger sur votre oreille, et parfois ça rend difficile la compréhension de vos propos, mais en quoi ce verdict, par ailleurs, peut également faire en sorte que chacun se repositionne, et notamment, là, je parle des partis qui sont représentés à Madrid. Je parle du parti qui est encore au gouvernement par intérim, c'est le Parti Socialiste. Pedro Sanchez, qui, entre parenthèses, avait pris le pouvoir l'année dernière après une motion de censure contre Mariano Rajoy, mais en s'appuyant sur les forces politiques pro-indépendance, il promettait une autre manière de faire. Le Parti Populaire de droite, lui, a toujours eu un discours de recentralisation, mais peut-être le durcit-il encore à nouveau à l'aune de ce procès. Comment les uns et les autres se repositionnent là en ce moment ?
Alors, le gouvernement espagnol, donc piloté aujourd'hui, mais de manière provisoire par Pedro Sanchez, est en état d'alerte maximale, avec des réunions de crise des ministres de la Justice, de l'Intérieur, de la Défense, mais aussi des relations extérieures, parce que vous savez qu'une partie de la bataille des arguments et de la communication se fait aussi à l'extérieur, avec les quasi-ambassades, j'utilise des guillemets, de la Catalogne, à Bruxelles, ailleurs en Europe, y compris ailleurs dans le monde, mais aussi la volonté du gouvernement espagnol d'exprimer à l'extérieur que ce sujet reste un sujet intérieur et pas un sujet opposant une nation à une autre. Pedro Sanchez cherche à parler d'une voix unique et cherche à jouer à une image de rassembleur, voire de centralité. Et donc il a entamé une tournée de contact avec les leaders de Ciudadanos, du Parti Populaire, y compris de Podemos qui, comme Vox, les deux partis plus éloignés du centre, ayant une vision très critique de ce verdict. Et on envisage effectivement une recomposition politique relativement importante, sans qu'il y ait cependant d'événements majeurs. On est dans un contexte de pré-campagne électorale et vous avez rappelé qu'on est à 25 jours à peine du vote au général, mais je dirais que Pedro Sanchez n'a pas d'autre choix aujourd'hui que de s'appuyer sur les partis les plus importants pour trouver le temps de négocier dans la défense de la Constitution, de la démocratie et des institutions espagnoles.
Et de son côté, le Parti Populaire a déjà renforcé son discours sur la recentralisation. Le président du Parti Populaire promet de réinscrire dans le Code pénal la convocation de référendum illégal et de renforcer le corps des inspecteurs d'éducation pour éviter, dit-il, l'endoctrinement. Merci beaucoup, Nassima Baron, d'avoir été avec nous ce matin. L'Espagne en crise, une géopolitique du 21e siècle. C'est le livre que vous aviez coécrit en 2015 avec Barbara Loyer chez Armand Collin. Bonne journée.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
France Culture présente l'exposition Charlie Chaplin dans l'œil des avant-gardes. Première star internationale du cinéma, Chaplin n'a cessé de fasciner son époque. De Fernand Léger à Marc Chagall, Alexander Calder à René Magritte, l'exposition porte un regard inédit sur la proximité de ces artistes avec le cinéma de Charlie Chaplin. À travers plus de 200 peintures, photographies, dessins, sculptures provenant de collections du monde entier. Charlie Chaplin, dans l'œil des avant-gardes, au Musée d'art de Nantes, du 18 octobre au 3 février. Un partenariat France Culture.
Vous écoutez France Culture, il est 6h57. Vous avez un prénom et un nom, Guillaume Erner, bonjour.
Mais bonjour Julie Gacon.
Mais en revanche,
bonjour à toutes et à tous.
Au municipal, Guillaume Erner, votez Madame X.
Alors seulement si vous habitez en Moselle, hein, à Forbach, Monsieur X, vous vous souvenez, c'était Gaston Defer en 1965. Il avait commencé à faire campagne pour l'Élysée sous couvert d'anonymat. Bon, ça avait fini en eau de boudin. Madame X est beaucoup mieux. C'est une trentenaire brune, elle s'affiche aux côtés du candidat Rassemblement National pour la mairie de Forbach, qui s'appelle Lucien Terragnolo. Elle offre un visage assez avenant sur les tracts aux côtés de ses deux autres camarades, un trio qui entend donc conquérir la mairie de Forbach. Alors la singularité de Madame X, la colistière du candidat RN, c'est comme nous l'apprend le Figaro aujourd'hui, elle n'existe pas. Enfin, pas sous cette forme. Madame X, présente sur la liste RN à Forbach, n'habite pas Forbach, ni même en Moselle. Probablement pas en France non plus. Madame X appartient à une banque d'images. Vous savez, ces bases de données qui vous proposent des visages pour illustrer vos dépliants publicitaires, vos photos de couverture. Et c'est donc là que Lucien Terragnolo, candidat à la mairie de Forbach, est allé la pêcher, moyennant 64 euros. C'est le prix du cliché dans cette banque d'images. Le candidat à la mairie s'est offert une colistière. Alors évidemment, on aurait préféré pour la beauté du geste que cette dame soit une deepfake, autrement dit une création totale. Pour cela, il faudra probablement attendre quelques années. Pour l'instant, il faut se contenter d'un cliché d'illustration. C'est d'ailleurs ce qu'a répondu le candidat pour sa défense, expliquant que rien n'indiquait sur le tract qu'elle faisait partie de l'équipe municipale. Et a priori, rien n'interdit effectivement sur un tract électoral de glisser au milieu de l'équipe une passante R2D2, Éric Zemmour ou Laetitia Hallyday. Je dis Éric Zemmour ou Laetitia Hallyday parce que ça fait beaucoup de clics sur Internet. De vous à moi, je trouve cette innovation absolument admirable. C'est un perfectionnement de la candidature Bouteflika où il s'agissait de voter pour une personne, disons, inerte. Là, il s'agit de voter pour une personne qui n'existe pas, enfin pas sous cette forme, une sorte de Big Brother 2.0, Big Brother sans moustache, puisque dans le roman d'Orwell 1984, il y a fort à parier que Big Brother n'existe pas, Big Brother n'est qu'un visage, le visage du parti, une amélioration donc de la démocratie représentative, la démocratie représentée par une photo.
7h-9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner.
Et aujourd'hui, suite au suicide d'une directrice d'une école à Pantin et suite aux difficultés rencontrées par les professeurs, notamment dans les quartiers dits difficiles, nous avons décidé de donner la parole à une directrice d'école. Elle sera dans ce studio aux environs de 7h40 en compagnie d'un sociologue, Bernard Lahire, qui vient de consacrer une étude particulièrement impressionnante sur l'inégalité des chances parmi les enfants. En attendant, il est 7h sur France Culture et je vous souhaite un très bon réveil.